monothéisme est issu du polythéisme. Qu'est-ce qui se passait chez les Grecs? Qu'est-ce qui se passait en Perse, chez les Iraniens? Qu'est-ce qui se passait également avec les dieux indo-européens, comme Mitra, le mitraïsme? Les trois que je viens de citer ont préfiguré l'enseignement du Christ. C'est vers 6500 que les hommes s'installent en Grèce, c'est-à-dire 3500 ans après la dernière glaciation du Wurm. En 700 avant Jésus, Hésiode écrit une cosmogonie utilisée par tous les Grecs. Il va mettre en place cette pyramide de Dieu avec à la cime Zeus. Orphisme, ça vient d'Orphée, mais ça n'a rien à voir avec Orphée. Alors Orphée, je vous le rappelle, il chante bien, il perd son Eurydice, elle va aux enfers, il essaie de la ramener, et puis il se retourne au moment où il est dans la lumière, alors qu'elle est dans l'obscurité, elle reste dans l'obscurité. L'orphisme a dû se développer entre 500 et 600 avant Jésus-Christ. Eh bien, l'histoire, c'est l'histoire de la faute originelle. Zeus va féconder Perséphone et il va avoir un enfant, Dionysos. Mais Héra l'apprend. Et Héra va dire au titan, vous allez prendre l'enfant et vous allez le tuer. Les titans se précipitent, attirent Dionysos à l'aide d'un miroir, ils le prennent, ils le tuent, ils le dépècent, ils le font bouillir et ils le dévorent. Zeus apprend cela, il foudroie les titans. Les titans sont donc transformés en cendres et de la cendre des titans naît l'humanité. La moitié de cette cendre va donner des hommes bons, l'autre moitié va donner des hommes mauvais, puisque à l'origine, il y a eu des hommes mauvais dans la cendre, il restait une part du mal. Donc, le péché originel, c'est le péché des titans, en fait dire d'Héra, qui a commis le crime de tuer Dionysos par jalousie. Cette faute originelle des trois reprises après par Ève. Donc, Ève a commis la faute, elle a donné la pomme à l'homme, la connaissance, et donc, elle a damné l'humanité. C'est la raison pour laquelle on lui fera porter ce péché-là jusqu'à ce que l'humanité meure. À part la faute originelle, 500 ou 600 ans avant, les sacrifices sanglants d'animaux ou humains sont abandonnés, il n'y a plus de sacrifices. Les gens ensuite doivent se purifier, d'où la notion de bien ou du mal. L'homme porte en lui le mal, il commence à en avoir conscience. Et le mal, c'est ce qu'on appellera le péché. Donc il faudra instaurer des lois. D'après l'orphisme, on voit apparaître une notion de migration des âmes. Un corps qui meurt, il n'y a que le corps qui meurt, l'âme ne meurt pas. Il y a transmigration, elle va ailleurs, dans un végétal, dans un animal ou dans une autre personne. Dans l'orphisme, on voit les prêtres mendiants, regardez comment c'est curieux. Qu'étaient les apôtres sinon des prêtres mendiants? Et enfin des missionnaires, qu'étaient les apôtres sinon des missionnaires? La Grèce a également inventé le monothéisme. Socrate vivait à une époque charnière, c'était la fin du siècle de Périclès. La Grèce n'a jamais été aussi extraordinaire qu'à cette époque-là. Mais en même temps, à la mort de Périclès, il y a eu une véritable débâcle politique de la Grèce. Donc le peuple se cherchait. Un peuple qui était dominateur et qui est en passe d'être dominé se pose évidemment beaucoup de questions. La jeunesse se posait beaucoup de questions. Or, Socrate, c'était un tribun hors pair. Bien qu'il fût laid, c'était quelqu'un excessivement charismatique et qui attirait énormément les gens de par sa dialectique qui consistait en une maïeutique appliquée. Du verbe maio en grec qui signifie accoucher. Quelqu'un comme Socrate, pour des hommes politiques, dites-moi, c'est sacrément dangereux des gens comme ça. Il parlait bien. Or, où parlait Socrate? À la Pnyx, à l'Assemblée, à l'Agora, dans les maisons, chez les particuliers riches qui invitaient tout le monde. Il fréquentait la haute aristocratie, comme Alcibiade, par exemple. Socrate était redoutable. Or, qu'est-ce qu'il proférait? Eh bien, il proférait une nouvelle religion, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais une religion quasiment scientifique quand vous lisez le Timée de Platon. Lorsqu'on lit le Timée de Platon, pour l'époque, c'était très 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 avancé et assez révolutionnaire. La philosophie des idées, on a peur des gens qui ont des idées. Quand on se coule dans le moule, c'est parfait. Et puis enfin, question Dieu. Était-il polythéiste, Socrate ? À mon avis, non. Socrate était monothéiste. Il disait souvent le Dieu, le démiurge. Lorsqu'il fut accusé de corrompre la jeunesse et de s'attaquer aux dieux, et il s'attaquait fondement, finalement, de la religion polythéiste athénienne, or, comme c'était la base de la société, les politiques de l'époque lui ont donné la ciguë à boire. Quelqu'un qui a énormément marqué son époque, c'est Parménide. Or, quand vous lisez cette phrase que j'ai retrouvée de Parménide, c'est vraiment étonnant pour un polythéiste. Que dit-il ? L'incréé, impérissable, car il est complet, immobile et éternel, et il gouverne tout. Ben dites-moi, c'est du polythéisme, ça ? Le « il », c'est quoi ? C'est du monothéisme. C'est le « un » dans le « tout » et le « tout » dans le « un ». Parménide faisait déjà de la mécanique quantique sans le savoir. Et très très tôt dans l'humanité, on a des gens qui sont d'une lucidité hallucinante. Quand vous lisez Démocrite et Leucippe, l'atome mystique, c'est Aristarque de Samos. Comment a-t-il fait pour penser à l'héliocentrisme ?